You're in charge of hiring and Indeed has solutions, like online skills tests, which let a candidate show that they are the right hire. And we give you this toy monkey who will bang its cymbals when the right CV appears on your desktop. Okay, there is no monkey. There is no monkey. But there are online skills tests.
See why more than 250,000 companies in the UK use Indeed for hiring. Visit indeed.com/try today to try skills tests for free today. Terms and conditions apply.
Vous écoutez
RMC.
RMC. On va pas prendre tout le football français sur le dos.
Putain, non, non.
Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts, c'est qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit. Ok. Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Super, Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là comme tous les soirs en direct, bien sûr. L'After est sur RMC, l'After est sur RMC Sport News dès 21h tous les lundis cette saison, vous le savez, 3h d'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football ne pense pas encore. Jérôme Bretagne est là ce soir. Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Kevin Diaz est avec nous ce soir, salut Kevin.
Salut, bonsoir à tous.
Sa présence n'a rien à voir avec le fait que l'Ajax joue cette semaine, hein,
non,
je vous précise.
Rien à voir.
Et puis surtout, t'as plein d'avis sur plein d'autres choses que l'Ajax. Sachez-le, messieurs. Florent Gautreau, évidemment.
Salut à tous.
Comme tous les lundis, est là. Tout à l'heure à 22h30, les drôles de l'âme. Comme tous les lundis, notre Tour d'Europe hebdomadaire. Julien Cazard sera là à 23h. Et l'événement ce soir, évidemment, c'est la Ligue 1 qui est repartie très fort ce week-end. Polémique avec la VAR, l'OM qui enchaîne les victoires, Leonardo qui était dans le team du gars tout à l'heure. À propos de l'OM, Jérôme va vous parler tout à l'heure de Benedetto. Eh oui, Florent, lui, veut parler de Neymar et Kevin veut parler de la VAR. Ça tombe très bien, tous les sujets seront balayés dans
ah oui, c'est vrai que toi,
dans quelques minutes.
Une semaine, c'est pour ça, c'est obligé. T'en as pas parlé tous les jours encore.
Non, mais surtout, c'est que.
C'est pour ça.
C'est surtout que.
T'en fais pas, on va pas te couper la parole.
Ce que j'ai entendu n'était pas au niveau, donc je.
Je suis d'accord. Écoute, avec tout le monde qui a donné son avis, je sais pas Jérôme, ce que tu vas dire.
Ouais, Jérôme, j'étais tombé un peu en dessous sur Neymar.
Jérôme, il est trop supporter, c'est pour ça.
Avec le PSG.
Un petit peu.
Avec le PSG, t'es obligé.
Il est tellement. Il est très dur avec le PSG. Moi, je le trouve souvent très dur.
Mais en tout cas, 32-16 est là avec Neymar.
Les gars, pour réagir, le hashtag RMC Live sur Twitter, normal, si vous avez Twitter, ou bien Direct Studio sur l'appli RMC, l'appli RMC Sport. Voilà, passez par l'appli. En plus, c'est gratuit. En plus, vous avez tous les résultats. Vous pouvez écouter la radio en live et nous envoyer des messages en appuyant sur la petite radio en haut à droite qui vous donne accès à Direct Studio. On a deux directs, messieurs, dames, ce soir. D'abord, du volley avec le est le premier gros match de l'équipe de France qui affronte la Bulgarie. La Bulgarie en volée, c'est meilleur qu'en foot. Hein. Nicolas Bayou est sur place. Salut Nicolas.
Bonsoir à toutes et à tous. L'équipe de France qui mène au score dans la première manche, 20-16. Un début de match parfait des Français. Très haute qualité de jeu de la part des Bleus de Laurent Tilly qui menait 18-11. Mais les Bulgares sont en train de revenir. On s'y attendait. Le voilà, le premier gros choc pour l'équipe de France. 20-17 dans cette première manche pour les Bleus qui sont toujours devant. Mais les Bulgares reviennent au score.
Il n'y a pas un Kostadinov dans l'équipe de Bulgarie?
Non, il y a Sokolov qui est bon, énorme. Ouais. Sokolov, c'est le joueur vedette et il a un bras puissant qui
vaut mieux,
pour le moment met en difficulté les Français, mais les Français sont devant toujours, 21-17.
À tout à l'heure, il y a également de la Ligue 2. Lens reçoit Châteauroux. Jordan Olivier, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous et à tous. 20 minutes de jeu ici au Stade Bollard, 0-0 entre les deux équipes, mais domination lensoise avec il y a quelques instants la première très grosse occasion pour les 100 et or. Une récupération de Yannick Cahuzac au milieu de terrain qui a servi Florian Sotoka, mais qui a buté sur Rémi Pillot. Cette équipe Castelroussine en grande difficulté en Ligue 2, 19e de Ligue 2, et qui n'a toujours pas inscrit le moindre but après 7 journées de Ligue 2. Il va falloir débloquer le compteur but ce soir pour espérer au moins remporter la partie. 21 minutes de jeu, 0-0 entre les deux équipes.
Je précise, avant qu'on démarre l'after, que les podcasts de la semaine sont en ligne. After Paris, After Marseille, After Lyon, After Saint-Etienne. Il y a du Jérôme Bretagne dedans, évidemment. C'est en ligne sur les applis RMC, RMC Sport. Et sur
on a été bon en plus.
Et sur toutes les plateformes, j'ai dit rond, évidemment.
J'étais pas tout seul à les faire. Hein.
Et puis, la Ligue des Champions reprend cette semaine. Et là, attention messieurs, dames, cadeau exceptionnel ce soir dans l'after. Ce soir, dans l'after, on vous offre vos places pour PSG-Real. c'est pas rien quand même. Donc c'est mercredi évidemment, et pour gagner ces places, c'est très simple, faut rester à l'écoute de l'after de façon très attentive. Et dès que vous allez entendre le signal sonore suivant, écoutez bien. Ah là, il y a rien. Donc forcément, ça marche pas. Mais il y a un signal sonore qui va arriver. Dès que vous l'entendez, ce signal sonore, c'est que vous écoutez-le. Tac.
Gagnez maintenant
vos places pour PSG Real Madrid sur RMC.
Envoyez foot par SMS au 732-16.
Voilà. Bon, bah, dès que vous entendez ça, vous envoyez foot par SMS. Vous venez de l'entendre au 732-16. Ça, c'était un coup d'essai, hein. C'est pas maintenant, hein. Donc, ce sera plusieurs fois. Ça va arriver plusieurs fois parce qu'on a plusieurs places à vous faire gagner, donc restez bien attentifs d'ici minuit. Premier dossier du soir, la VAR. On va, avec Kevin tout à l'heure, parler de la VAR de façon plus générale, mais d'abord on va se focaliser sur ce qui s'est passé ce week-end à Brest. Brest reçoit Rennes, vous avez tous vu ce qui s'est passé, évidemment, on va pas y revenir, tout le monde est au courant, les afteriens suivent le foot de très près. Pascal Garébian, le patron des arbitres français, était dans Breaking Foot il y a quelques minutes. En gros, pour lui, tout s'est bien passé. Voilà, il y a juste eu un petit bug de communication entre le VAR Center et Monsieur Turpin. Donc pour lui, pas de polémique, pas d'histoire. Alors évidemment, les supporters rennais ne sont pas du même avis. Le club non plus. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite avec Olivier Létang, qui est le président du Stade Rennais. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je précise que vous étiez tout à fait disposé à discuter à l'antenne avec Pascal Garébian, qui n'a pas voulu faire ça avec vous, Olivier Létang.
Et dans les cordes.
Oui, je vous le confirme. Effectivement, je trouve que c'est dommage de pas avoir pu échanger avec Pascal Garébian. Mais c'est son choix, donc je le respecte et je suis à votre disposition maintenant.
Alors, vous avez écouté ses arguments il y a quelques minutes sur RMC. Donc, ce que j'ai dit, hein, en gros, pour lui, tout s'est bien passé. L'arbitre n'a pas cédé à la pression. Bon, nous, on a eu une impression un peu différente, que ce soit devant la télé ou nos envoyés spéciaux au stade. Quelle est votre réaction à ce qu'a dit Pascal Garébian il y a quelques minutes ?
Alors déjà, avant toute chose, nous, dirigeants de club, on doit effectivement prendre de la hauteur et montrer l'exemple. Donc je vais peser mes propos, mais je vais être le plus clair possible. Déjà sur les justifications qui, pour moi, sont totalement erronées. Totalement erronées. Je trouve que c'est dommage et que c'est pas très sérieux pour le football français. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un fait une erreur, il peut lever la main en disant « j'ai fait une erreur ». Moi, ce que je souhaite, c'est être très, très, très factuel. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est très grave, parce que il y a un terme qui a été utilisé à plusieurs reprises, c'est le cas de jurisprudence. Ce qui s'est passé n'avait jamais été vu auparavant. D'accord?
En France.
L'arbitre de la rencontre, M. Turpin, donc le Stade Rennais marque un but, l'arbitre de la rencontre siffle après que le ballon soit rentré dans le but, et ensuite, il se passe plus de 2 minutes, environ 2 minutes 15, pendant lesquelles Monsieur Turpin échange avec ses collaborateurs ou ses collègues qui effectivement étaient à Paris pour le VAR, ce qui veut dire qu'en 2015, c'est très long. Vous avez le temps de revoir, de re-revoir l'action. Donc, ils ont beaucoup échangé, si vous regardez les images, jusqu'à ce qu'ils prennent la décision ensemble de valider le but. Voilà. Mmh. Ils valident le but, pas en première instance, mais après avoir échangé avec tout le monde. Et ensuite, à plusieurs reprises, puisque au moins 3 ou 4 fois, aux 4 reprises, il demande aux Bretons de reprendre, de Brest, de reprendre le jeu. Mmh. D'accord ?
On a suivi tout ça.
Ça ne s'est jamais... Vous l'avez vu, donc encore une fois, je veux rester très factuel. Aucune sanction, les textes prévoient que si un joueur conteste le VAR, effectivement, il peut être sanctionné. Les Brestois l'ont fait.
Oui. Normalement, c'est carton jaune.
Refusé. Ouais. Ils ont refusé de prendre le jeu. D'accord ? Et finalement, après qu'il y ait eu une pression assez importante des joueurs et de l'environnement, Monsieur Turpin a décidé de changer d'avis, ce qui dans le protocole VAR n'est pas possible. Et je vais reprendre les propos de Pascal Garébian, qui a parlé de process non respecté, qui a parlé de dysfonctionnement, et puis qui finalement par une pirouette s'en sort en disant non, mais il n'y a pas eu de pression. C'est pour ça que je disais que c'était pas sérieux. Mmh. Et on peut pas effectivement se contenter de cela, et c'est pour ça que je disais que c'était dommage, parce que à un moment donné, on est tous là, et moi je défends bien évidemment les intérêts du Stade Rennais, mais je parlerai plus tard aussi du football français en général, et on peut pas accepter aujourd'hui que le Stade Rennais subisse un préjudice suite à une faute qui a été commise, qui a été validée par tout le monde. Même Monsieur Garébian a parlé tout à l'heure de dysfonctionnement et de process non respectés. Il y a un lien entre cette faute et ce préjudice. Il est donc logique que le Stade Rennais demande des réparations.
Donc vous avez demandé à la Ligue de ne pas entériner le résultat ?
Absolument, il y a un délai effectivement pour que la Ligue entérine le résultat. Mais encore une fois, j'insiste sur les fautes qui ont été commises, et que effectivement, on tire tous les conclusions de ces erreurs pour que les décisions qui doivent être prises soient prises par les personnes responsables.
Mais président, vous souhaitez quoi alors que le match soit rejoué, une victoire, qu'est-ce que vous espérez obtenir ?
Théoriquement, si on reprend le fil du match, le but est validé, encore une fois, après analyse de la situation, après partage entre les différents arbitres qui jugent cette situation, théoriquement, le score est de 1-0, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le résultat final de ce match est erroné. C'est-à-dire que le classement aujourd'hui de la Ligue 1 est erroné également. Mmh. Il n'est pas concevable pour le Stade Rennais, effectivement, qu'on se dise « c'est pas grave, finalement, on sert de cobaye ». Et puis, il y a des gens qui investissent dans le football aujourd'hui, il y a des gens qui sont professionnels, il y a des clubs qui travaillent, il y a des salariés, des joueurs, des staffs qui s'investissent, qui travaillent. On a des communautés derrière nous, derrière chaque club. Et puis finalement, on devrait servir de cobaye. Et puis nous expliquer en balayant d'un revers de la main, mais non, mais vous inquiétez pas, les process n'ont pas été respectés. Il y a eu un dysfonctionnement. On n'a pas sanctionné les joueurs. Mais finalement, c'est pas grave, c'est la bonne décision qui a été prise.
Non, mais,
je pense que c'est trop fort et on peut pas l'accepter.
Laurent Gautreau.
Olivier Létang, le problème de ce genre de... Moi, je comprends par rapport à ce que vous dites factuellement. Ok, il y a une erreur, c'est très clair dans le process. Et effectivement, Gary Bion n'est pas très clair sur les conséquences de cette erreur. Mais vous-même, vous portez l'affaire, on va dire, sur un terrain quasi juridique. Il faut accepter aussi l'erreur, y compris avec le VAR. C'est-à-dire que moi, je suis contre le VAR et je suis très content de voir tout le bazar qu'il y a maintenant, parce que je pense que voilà, on se rend compte maintenant de tout ce que ça va engendrer comme problème et non pas comme solution. Mais des erreurs d'arbitre manifestes avant qu'il y ait le VAR, il y en avait aussi. Même parfois des erreurs de je veux dire techniques. Et on porte pas toujours l'affaire sur un plan juridique. Je veux dire par là que c'est une jurisprudence. C'est-à-dire que si on va sur ce terrain-là, oui, effectivement, je pense qu'il va y avoir des tas d'actions comme ça à l'avenir. Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'aller sur ce terrain-là ?
Non, je suis pas d'accord avec vous parce que le cas est totalement différent. D'accord ? Il y a effectivement un certain nombre de situations qui sont des erreurs d'arbitre. On en subit, on en bénéficie parfois, mais le cas est totalement différent. Parce que là, sur le match de samedi soir entre Brest et Rennes, les arbitres, je dis bien les arbitres, avec le VAR, prennent plus de 2 minutes 15 pour analyser la situation. Ils le voient, ils le revoient, ils le revoient. Et suite à cette analyse partagée, ils prennent la décision ensemble de valider le but. Mmh. Il y a des décisions. Par exemple, on a marqué un but juste avant sur un coup de pied arrêté. Les images ont été revues, il y avait hors-jeu. Effectivement, le but est annulé, c'est normal. Donc parfois, effectivement, ça peut. Là, c'était dans le bon sens, ça peut être des erreurs. Mais là, le cas est totalement différent. Vous avez des joueurs qui ont refusé de reprendre le match alors que l'arbitre de la rencontre, M. Turpin, a pris encore une fois cette décision de façon mesurée. 2 minutes 15, c'est très long déjà. Très long. Il a validé le but.
Ouais.
Et les joueurs, alors qu'il leur a demandé à 3 ou 4 reprises de reprendre
on a
le
effectivement
jeu,
suivi ça.
De le faire.
Alors Olivier Létang est avec nous, président du Stade Rennais. On va voir jusqu'où ce que ça donne, hein, votre action là auprès de la Ligue. On n'a pas encore la réponse claire d'ailleurs de la Ligue sur le sujet. Fondamentalement, vous êtes pour ou contre le VAR ?
Mais aujourd'hui, c'est très sincèrement, je me suis déjà exprimé sur le sujet. J'étais plutôt pour. Aujourd'hui, je rejoins quand même les rangs de Michel Platini parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ça nous apporte plus de complications que de choses positives.
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure.
On le voit.
Et vous rendez compte que,
on est un peu tous d'accord. Hein, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui étaient pour.
C'est pour ça que je dis que ce cas, il est tout à fait extraordinaire et que c'est une jurisprudence. C'est que c'est la première fois qu'une décision qui est analysée, disséquée, partagée pendant 2 minutes 15, finalement, parce que l'interruption a duré plus de 8 minutes. Ça aussi, c'est un élément intéressant. Plus de 8 minutes, plus 6 changements. Et finalement, on a eu 6 minutes de temps additionnel. D'accord ? Ce qui veut dire que M. Turpin ne devait pas être très bien pendant cette deuxième mi-temps. Mais on s'aperçoit encore une fois que ce cas est tout à fait exceptionnel. C'est la première fois, je me répète, qu'en ayant analysé, partagé, disséqué la situation, au bout de 2 minutes 15, on confirme effectivement le but. On demande aux joueurs de reprendre à 3 ou 4 reprises le jeu. Et d'ailleurs, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il y aura une sanction pour le joueur qui demande le VAR
ou qui refuse de reprendre le jeu.
Là, ça aurait pu être carton jaune pour toute l'équipe de Brest, parce qu'ils sont tous
venus. Et finalement, après plus de 8 minutes, on revient sur une décision qui avait été entérinée grâce au VAR.
Merci Olivier Létang. Maintenant, affaire à suivre, évidemment, et nous allons continuer le débat au 32-16. Merci beaucoup, à bientôt RMC.
Merci à vous. J'ai juste un dernier point. Effectivement, je parlais du Stade Rennais, mais je parlais globalement aussi du football en disant tout à l'heure que des actionnaires arrivaient, investissaient, des staffs, des joueurs qui travaillent, des clubs qui sont professionnels. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas accepter, encore une fois, que ce type de décision... ça arrive sur Brest. Sur ce point-là,
Olivier Létang, moi je me permets quand même une remarque. Je veux dire, vous pouvez aussi avoir un attaquant qui tout à coup vendange pendant 10 matchs et vous voyez ce que je veux dire. Donc et là ce sera la faute de l'équipe. Donc
ouais,
c'est pour ça que je voulais en revenir sur le dernier point effectivement parce que cette situation ou ce qui s'est passé samedi soir prend beaucoup effectivement d'importance et nous ce que l'on souhaite malgré tout c'est rester concentré, on n'est pas là en train de se plaindre. Mais on insiste sur le côté tout à fait exceptionnel. Et ce que je souhaite, moi, c'est que mon club, mes joueurs et tout le monde soient concentrés exclusivement sur l'aspect sportif. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas laisser passer cette situation parce qu'elle est très grave et surtout, il ne faut pas qu'elle se reproduise.
Ouais, mais factuellement, je rebondis puisque vous avez rajouté ça et j'ai entendu ça. Moi, ce chantage et je comprends qu'il y ait des intérêts derrière, aux salariés, aux fameux intérêts qu'il y a derrière un club, je pense que c'est en ça que je pense que c'est dangereux parce que même, on a déjà entendu ce discours-là, y compris pour des erreurs sportives, en disant on ne peut pas tolérer cette erreur d'arbitrage parce qu'il y a des intérêts énormes derrière. Moi, je crois que si on tient ce discours-là, c'est un discours qui est super dangereux, qui met une pression hors VAR même, considérable sur les arbitres, qu'il faut accepter l'erreur humaine. Alors en l'occurrence, nous on est contre le VAR dans l'after parce qu'on se doutait de ce qui allait arriver avec ce genre de problématique. Mais entre guillemets, le chantage économique, et je sais qu'il y a derrière des salariés et on sait qu'il y a derrière des intérêts, mais ce chantage-là, il peut être aussi actionné pour d'autres motifs. On l'a déjà entendu sur des motifs sportifs et je pense que ce n'est pas une bonne voie pression démesurée.
Je ne suis pas d'accord avec vous non plus là-dessus, ça n'est pas du chantage. C'est simplement de dire que les clubs sont très professionnels. Il y avait avant des décisions d'arbitre où ça allait très vite. Effectivement, c'était compliqué de savoir à quelques millimètres. Mais aujourd'hui, avec un outil comme celui-là, ça n'est plus la décision d'un arbitre. Et ça a été une décision partagée pendant plus de 2 minutes qui a été disséquée. Et on arrive effectivement à encore inverser la décision que les arbitres ont prise. C'est là où on a un problème, il faut régler ce problème.
Merci Olivier Létang, bonne soirée.
Merci,
à bientôt. Bon dans l'after.
Bon recrutement quand même.
Oui, effectivement, le recrutement. Rien à voir avec le VAR, c'est réussi.
Non, mais il faut le dire, on n'a pas parlé foot.
Les gars, votre réaction dans quelques secondes, mais d'abord un point sur le volet. France-Bulgarie, Nicolas.
Premier set remporté par l'équipe de France, 25-19. Début de la deuxième manche, les Bleus sont devant 7-5 dans ce choc France-Bulgarie pour essayer de prendre la première place du groupe. Tout va bien pour l'équipe de France. Très efficace en attaque, présente au contre et également présente dans sa qualité de service pour le moment. Okay. C'est un très bon match.
Lance Châteauroux, le point Jordan Olivier.
Les Lensois continuent de dominer mais sans concrétiser leurs occasions. 34 minutes de jeu 0-0 entre Lens et Châteauroux. Du coup, ça donne des idées aux Castelroussins qui se procurent également quelques occasions à l'instant par Sangaté qui a finalement trouvé le gardien lensois Jean-Louis Leca. 35 minutes de jeu 0-0.
Jean-Louis Leca.
Exactement, c'est mieux dit par Jérôme. Ouais. Entraîne-toi, Jordan. les gars, tout ça, cette affaire, plus le reste des problèmes de VAR ce week-end, parce qu'il n'y a pas eu que Brest, Rennes, il y a aussi Saint-Étienne, a inspiré la vie du soir de Kevin Diaz. Kevin, on t'écoute. On voulait te mettre l'hymne des Pays-Bas, mais on l'a pas.
Du Fortuna Sittard, on l'avait, non ?
Fortuna Sittard, grand club.
Ouais, bien sûr. Ou Eindhoven, le FC.
C'est vrai, le FC.
Moi je voulais faire le réserve du Stade de France en régie,
il a confondu.
Ouais, puis il est un peu trop tôt pour mettre le Fortuna Sittard.
C'est joli. Alors, Kevin.
Avant même que savoir qu'on allait avoir Olivier Létang dans l'after ce soir, moi je voulais déjà faire mon avis tranché sur le VAR parce que on le sait tous. C'est une catastrophe pour notre sport depuis que ça a été mis en place. Moi, j'étais un peu comme Olivier Létang. D'ailleurs, au début, je voulais laisser une chance à cette technologie de pouvoir nous apporter quelque chose. Mais aujourd'hui, même, alors des fois, moi, je veux même parler de l'outil à proprement dit, pas de son utilisation. Alors il l'a dit, Olivier Létang aussi, mais ça hache le jeu. Il y a beaucoup trop d'arrêts de jeu. Il y a du temps additionnel en veux-tu, en voilà. Le VAR est en train de changer les règles du football. Parce qu'il y a quelques saisons, on disait que, par exemple, pour le hors-jeu, il fallait laisser le doute qui profite à l'attaque. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Ouais. Donc, l'outil
exemple
a complètement...
Exemple Coulouris hier, par
voilà,
exemple.
Voilà, exactement. Coulouris, l'outil a complètement changé la notion des arbitres d'appréhender le hors-jeu, dans le sens où Coulouris, il part. Donc là, il fait du 45, peut-être. Mais s'il avait fait du 39, il n'était pas hors-jeu, en fait. Donc, ça devient n'importe quoi de voir au millimètre. C'est tout le contraire de l'esprit du jeu. Alors après, il y a toutes les polémiques qu'on vient d'en voir, les arbitres qui sont complètement perdus, je veux même pas en parler ce soir. Et c'est l'outil qui change complètement la perception de certaines fautes. Des mains, par exemple, la main de Marseille hier, mais cette main, mais footballistiquement, mais jamais on peut siffler un pénalty. En plus, la main de Camara, elle profite quand même à l'attaquant qui tire au-dessus finalement. Ah, et par contre, on revoit des images, images. En tout cas, ça a pas choqué le footballeur lambda, cette main. Personne ne s'est dit, oh là là, il faut absolument siffler pénalty. Personne qui aime le football. En tout cas, alors on va me dire, oui, mais on parle du football d'avant. Non, moi je parle du football d'aujourd'hui. Alors on pourrait continuer longtemps, mais pour conclure, le plus gros problème du VAR, c'est que ça anéantit complètement l'esprit de ce sport. Ça anéantit l'esprit foot. Il n'y a plus la place pour les sentiments, ni même pour le vice ou la malice. Ah, c'est la règle.
Les sentiments, c'est le but de Berić.
Et bien sûr.
Le but de Berić, le stade de Geoffroy Guichard, retourné folie furieuse. Et après, bah là, coït interrompu. Ah bah non, on remballe. Merci, au revoir.
Pour finir avec ça. Il y a une règle qu'on a retirée, non, Gilbert ?
Horrible.
Et le but de Toulouse, là, du...
Coulouris, il était malade,
ce qu'on a dit.
Ah oui, mais ça, c'est horrible aussi.
C'est la même chose, voilà. Pour les sentiments, tu dis.
La Toulouse est à l'extérieur.
Juste, Gilbert, pour finir, on me dit des fois, ouais, mais maintenant, il faut s'y habituer. Mais non, on a eu le but en or dans les années 2000. On l'a retiré, le but en or. Eh bien, retirons le VAR avant qu'il soit trop tard, pour le football, pour notre football, Jérôme Bretagne.
Je suis d'accord avec Kevin.
Bah toi c'est sûr, comme si t'allais être contre.
Bah non, mais écoute,
même avant qu'il y ait le VAR, tu commençais à le détruire déjà.
Bah oui, on avait tout vu avant tout le monde, nous. Écoute, ici, on l'avait expliqué, on avait fait des émissions. Ça fait 15 ans qu'on fait des émissions là-dessus en disant surtout jamais ce truc-là, ça va nous foutre le bordel. Et maintenant on a la confirmation.
Moi je suis plus objectif que vous là-dessus. Donc, déjà, oui, parce que j'étais pour laisser la chance au VAR. Il y a des fois, je me dis merde, ça va contre. Comme le disait Kevin, ce qu'il a dit, je peux pas te contredire. Ce que je veux dire sur l'ensemble de ta fiche, bien sûr que il y a beaucoup de points, on est d'accord. Moi, il y a juste je défends le terrain et j'essaye de me rappeler quand j'étais joueur de foot et quand il y avait des matchs qui comptaient et que tu te fais enfler sur une décision d'arbitre qui est flagrante, que tout le stade a vu et que y a que l'arbitre qui a pas vu ou qui a pas envie de voir. Et ben là, excuse-moi de penser que des arrangements, il peut y avoir des pressions. Comme Olivier Létang parlait de la pression des Brestois sur Turpin, j'ai eu le même sentiment par moment quand vous me parlez de hors-jeu. Il y a hors-jeu. Alors que ça soit
un avis différent.
Oui. Non, mais regarde le but. Vous me prenez le but de Berić. Ouais. D'accord, c'est horrible pour les supporters de Saint-Etienne, pour le joueur, pour le stade. Oui, ok, moi aussi je regardais, j'étais à fond dans le truc. Et pourtant, que Saint-Etienne gagne ou que Toulouse gagne, franchement, moi je gagne rien à l'affaire. Ouais. Mais j'étais dans le truc pareil que vous. Mais après, quand tu regardes le ralenti, il y a hors-jeu. Et alors, il est où le problème du VAR ?
Il y a hors-jeu ou pas ? Juste pour finir avec
l'hors-jeu, c'est l'émotion différée.
Regarde Coulouris.
Oui, non, mais je te prends l'exemple de Berić, moi.
Non, mais moi,
parce que c'est facile, vous me prenez l'exemple de Coulouris.
Toi, tu me prends.
Qui est, comme tu dis, il fait du
hors-jeu, en fait. En fait, le problème, c'est que footballistiquement, il n'est pas hors-jeu, en fait.
Bah alors
selon les règles du football, il y a encore 2 ans,
pourquoi
il n'est pas hors-jeu. Parce qu'on demandait à l'arbitre, si vous n'êtes pas sûr et qu'il est sur la même ligne, on laisse l'attaque.
Okay.
Et maintenant,
sauf qu'il y a le VAR.
Attends, mais le VAR, il change pas les règles du foot. C'est les arbitres qui savent pas s'en servir. Mais non! Faux, archi faux. Le VAR change les règles du football. Et en plus, pour le mal, même pas pour le bien. S'il améliorait le sport, tant mieux. Mais là, il fait tout le contraire.
Petite pause les gars, et ensuite on revient parce que j'ai un élément en plus à vous donner sur la notation des arbitres, et là je pense que vous allez bien halluciner dans quelques minutes.
Oh mais ça, la notation
ça joue dans la façon dont ils interprètent le VAR.
Mais il y a la notation, c'est point même score. La façon dont ils mettent les cartons.
Lance Châteauroux Jordan, le score, le temps.
À 5 minutes de la mi-temps, 0-0 entre les deux équipes, Gilbert.
Le volet, le score, le temps, France-Bulgarie, Nicolas.
14-9 dans la deuxième manche, les Bleus qui ont refait l'écart dans ce deuxième set avec un volet exceptionnel.
A tout de suite dans l'after pour continuer le débat et parler du Paris Saint-Germain. Derrière, vous allez voir, on va vous raconter une histoire extraordinaire liée au PSG dans quelques minutes.
RMC, 21h30, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là, bien sûr, avec Jérôme Rotten, Florent Gautreau, Kevin Diaz. Vous allez voir qu'on a un invité sympa dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur les lives. France-Bulgarie, d'abord le volet, l'euro, Nicolas Bayou.
Ça continue de sourire pour l'équipe de France. 19-14, on s'approche du gain de la deuxième manche. Les Bleus qui mènent à 7-0 et ils jouent avec beaucoup d'intelligence, mais aussi beaucoup de malice. On a vu un point superbe de Kevin Tilly qui a déposé le ballon dans le cœur de la défense bulgare. Tout se passe au mieux pour l'équipe de France.
Le foot lance Châteauroux, Jordan Olivier.
Fin de la première période, Gilbert. À l'instant, 0-0 entre les deux équipes. Légère domination.
Entendez siffler, là.
Quelques sifflets, effectivement.
Il y a Neymar dans les tribunes.
Pardon ?
Il y a Neymar dans les tribunes ?
Non, il n'y a pas les 20, effectivement. Mais il y a quelques occasions lensoises. Et puis les Castelroussins tentent de procéder par contre. C'est encore un peu trop brouillon pour le moment. 0-0 à la mi-temps.
Alors, avant de parler du PSG, messieurs, je conclue notre dossier VAR avec une information. C'est Loïc Braillé qui nous révèle ça. Figurez-vous que lorsqu'un arbitre siffle une faute et qu'il est déjugé dans l'oreillette par ses collègues du VAR, et si ces derniers sont vraiment formels sur l'erreur de l'arbitre, eh bien l'arbitre verra sa note impactée. Et, je vais plus loin, si jamais l'arbitre central dit non, c'est moi qui ai raison, il reste sur sa première impression en ayant tort, c'est-à-dire en déjugeant une deuxième fois le VAR, là encore, sa note baisse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gars qui est sur le terrain, il a tout intérêt à dire « Ok,
attends,
les gars,
attends,
je me couvre, c'est vous qui avez raison, parce que sinon ma note, je vais me prendre une, Gilbert, je vais me prendre une
mais
nulle. »
Mais ça, c'est horrible.
Alors, ouais, c'est horrible.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Kevin.
Ça, c'est terrible comme info.
C'est terrible, mais c'est ce que je voulais justement dire pour compléter ce que disait Kevin. Kevin, il a parlé finalement des supporters, des joueurs qui sont impactés par ça, parce qu'effectivement, l'histoire la plus emblématique du changement actuel, en dehors du VAR, mais provoquée aussi par ça, c'est la main. C'est-à-dire que la main, en gros, on s'est dit, on va pas faire compliqué. Pour les nouveaux entrants, là, dans le foot, qu'on veut mettre dans les stades, qui comprennent pas bien pourquoi il y a main intentionnelle, pas intentionnelle, pourquoi machin, on va leur dire, dès que la balle touche ta main dans la surface, on va mettre péno. Déjà là, tu quittes l'histoire du foot, tu dis, c'est pas grave, c'est on fait plus simple. Alors que c'est un sport, effectivement, où il y a de l'appréciation et donc des erreurs d'arbitrage. Donc ça, c'est un premier point sur la main. Mais l'autre chose, c'est effectivement la déresponsabilisation des arbitres. On était sur une voie qui allait un peu mieux, même si je sais que le sport national, c'est de les critiquer, qui était de dire, on va les professionnaliser, on va aller de plus en plus vers cela, c'est-à-dire ils sont mieux préparés, humainement, je parle avant le VAR, et on va, oui, toujours avoir des erreurs humaines, parce qu'il y en a, et moi je pense que ce qu'il fallait, c'est terrible, c'est comme pour tout, c'est comme pour les tribunes et pour les chants homophobes, c'est de l'éducation. Il faut éduquer les gens à respecter l'arbitre et à respecter les erreurs de l'arbitre. C'est-à-dire te dire, oui, mais c'est horrible, sûr. Mais c'est comme ça. Oui, à respecter. Tu dis c'est fini, c'est mort. Parce qu'effectivement, moi, j'ai joué au foot aussi et j'y joue encore. C'est mort, l'arbitre, de toute façon, on a l'habitude, on le pourrit en permanence.
Voilà. Parce que quand c'est l'attaquant qui rate 12 occasions dans le match, on va dire, ah, mais c'est pas sa faute, c'est l'équipe.
Donc, juste
et quand c'est l'arbitre,
ça arrive, on n'accepte pas. Tu sais que des fois, ça arrive aux arbitres, même au niveau professionnel, de dire aux joueurs, vous ratez des trucs, moi aussi, je peux me tromper. Et là, ils ont raison. Souvent, ils nous clouent.
Là, les joueurs disent, ah bah oui, ils nous chambrent.
Non, mais moi, je peux
l'entendre. Par contre, Gilbert,
tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens en France.
C'est ce que faisait Vessière. Vessière, il disait, bah attends, toi, t'as raté ça tout à l'heure, viens voir.
Non, mais comment il le faisait? Parce que toi, tu parles avec tes grandes phrases.
Oui, c'est les témoignages qu'on a eu dans la
Comment il le faisait, Vessière? Comment il le faisait, la plupart des arbitres qui sont encore aujourd'hui, que j'ai côtoyés? Je peux te dire qu'ils le disent pas comme ça, avec un sourire et tout.
Ils peuvent le dire aussi.
Avec un côté hautain, la plupart. Alors, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais la plupart c'est ça, et c'est pour ça que tout le monde se braque.
Je vais dire un truc, qu'il y a pas beaucoup de gens qui suivent le football français, si ils ne regardent pas régulièrement la Première Ligue, qui le savent. Vous savez qu'en Angleterre, les arbitres n'ont pas le droit de l'arbitre qui est central, qui est l'officiel, n'a pas le droit d'aller regarder la vidéo.
Oui, bien sûr.
Mais ça, c'est exceptionnel quand même. Et en Angleterre, paradoxalement, je trouve que c'est quand même. Moi, je l'avais dit de façon l'année dernière en commentant la Première Ligue. J'espérais que les Anglais allaient nous régler entre guillemets, ou en tout cas nous faire progresser le problème, parce qu'ils sont souvent meilleurs que nous sur beaucoup de choses,
Kevin,
footballistiquement.
C'est pas parfait non plus.
Ah non, c'est pas du tout parfait. Mais vous rendez compte que entre vous traversez la Manche Et en fait, c'est pas du tout le même arbitrage. Alors que c'est toujours l'UEFA. Non, oui, c'est exceptionnel.
Cela dit, dans les deux cas, ça ne change rien. Et c'est
au moins l'arbitre central.
Non, mais dans les deux cas, c'est la déresponsabilisation des arbitres. On allait sur une phase où on leur donnait de l'importance et des moyens pour être meilleurs, humainement.
Mais quels moyens?
Mais si, parce qu'avant, je peux te dire que quand les mecs, ils avaient un job à côté et qu'ils faisaient pas la prépa physique, ils étaient moins près de l'action.
Donc ça, mais non, Jérôme,
ça n'a rien à voir. Mais non, c'est toi qui comprends pas là. Jérôme, t'as des arbitres à une époque, ils faisaient un job à côté, ils se préparaient pas physiquement, ils étaient à 10 mètres de l'action. D'accord. Ils sont mieux préparés, ils sont près de l'action. Mais c'est ça aussi professionnaliser l'arbitrage.
Aujourd'hui, franchement, comment même les arbitres qui est préparé,
ils sont à côté. Bien sûr, ils sont à côté.
Allez, stop, on conclut sur le sujet.
Dans la mauvaise culture, de la critique permanente des arbitres. C'est une catastrophe. T'as été éduqué là-dedans.
Mais je critique pas les arbitres.
Moi, je trouve qu'ils sont meilleurs qu'avant.
Je veux les aider à
travers. Ils étaient meilleurs qu'avant, mais ils sont déresponsabilisés. Ça va plus vite aujourd'hui qu'avant, je suis désolé. Ça va plus vite, compliqué. Moi, dans mon avis
tranché, j'ai pas parlé des arbitres. Parce que pour moi, encore une fois, c'est l'outil qui pose problème, avant les arbitres. Mais si vous voulez juste conclure sur les arbitres, moi, de toute façon, je pense qu'on a un problème de l'arbitrage en France, c'est le problème de la culture footballistique. Pour moi, les meilleurs arbitres au monde sont les arbitres qui viennent de grands pays de foot, culturellement. Ça veut dire que c'est des gens, le gars du bar, tu vas en Espagne, tu vas au Portugal, tu vas aux Pays-Bas, tu vas même en Angleterre, le gars du bar qui a tapé le ballon que au district, il te parlera mieux de football que nos arbitres français. J'ai l'impression, en tout cas. J'ai l'impression que c'est leur appréciation et leur sensibilité qui est pas assez bonne. Mais ça, on pourra pas le changer. Et Flo, on peut les éduquer tout ce qu'on veut.
Non, mais ça,
l'expérience du terrain, on la remplacera pas.
Non, mais tu peux juste améliorer. Mais la déresponsabilisation dont tu parles sur la notation, elle va être aggravée par ça.
Alors une histoire étonnante, les gars, s'il vous plaît. Non, il faut qu'on passe à la suite. Les gars, histoire étonnante. On accueille Fred qui est avec nous. Salut Fred.
Bonjour.
Alors Fred, il travaille avec nous à RMC Sport. Il est pas journaliste, Fred, il est dans le commercial, tout ça. Mais Fred est un grand fan du PSG. Ouais. Et en fait, Fred est venu cet après-midi au bureau. On discute toujours de foot, de tout week-end, tout ça. Et Fred nous a raconté une histoire exceptionnelle. Et moi, je voulais qu'il vienne dans l'after ce soir la raconter parce que souvent, on parle de l'attachement des clubs aux supporters en disant les clubs, tout ce qui les intéresse, c'est les partenaires, c'est de rentrer de la thune, c'est les loges, c'est les VIP.
Ce qui n'est pas faux.
Mais n'empêche que là, histoire en plus liée au PSG qui souvent représente la quintessence de tout ça. Hein, c'est-à-dire de espèce de gentrification absolue des stades, avec les places qui sont chères, la sortie des ultras puis le retour, etc. Bon, alors je vais te laisser raconter, Fred, ce qui t'est arrivé il y a quelques jours.
Alors, d'abord, je suis content d'être en face de Jérôme pour raconter toute cette histoire parce qu'il a vécu aussi une partie de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais lui sur le terrain et moi toujours dans les tribunes. Il y a quelques jours, j'ai eu un appel du Paris Saint-Germain qui m'a dit à l'occasion du maillot Sœur, on voudrait vous honorer. Vous célébrez avec votre famille, parce que vous êtes trois générations d'abonnés au Paris Saint-Germain. On va vous faire venir à l'occasion du match PSG Strasbourg et on va vous faire une surprise. Alors, on est trois générations parce que mon père est abonné depuis le début, depuis 50 ans. Il y avait mon grand-père avant, qui était avec son gendre. Mmh. Puis ensuite, moi, je suis arrivé. Depuis l'âge de 6-7 ans, je vais au Parc des Princes et abonné depuis 35 ans environ, je compte plus les années. Et mes enfants, Axel et Sacha, qui ont 18 et 19 ans, sont abonnés depuis 10 ans déjà au Paris Saint-Germain.
Donc là, il y a trois générations dans ta famille, enfin quatre avec ton grand-père qui n'est plus là, d'abonnés au PSG. Et là, le club, il vous a identifié et il s'est dit, attends, incroyable. On les appelle.
Incroyable, on les appelle. Et voilà. Alors, incroyable, moi aussi, parce que franchement, depuis tant d'années, on n'attend rien. Hein, on n'est pas là pour ça. Non. On est là pour supporter une équipe. Mais franchement, je suis resté sans voix. Et je me suis dit, on va y aller. Et on va y aller tous les quatre. Et c'est ça qui était mouvant, en fait, cette transmission. Et d'aller tous les quatre sur le terrain. Et d'arriver sur ce terrain. Et de voir à la mi-temps arriver les Bibar, les Janol, les Boubacar, les Simba. Nous a manqué Susic, hein, je vous avoue. Et Louis, nous remettre notre maillot, floqué à notre nom de famille. Et franchement, c'était hyper émouvant. Très émouvant.
Donc ça, initiative du club quand même, les gars, c'est non, très sympa.
On moi, je parlé avec Fred.
Bah, moi, j'avais jamais. Alors ça existe peut-être ailleurs, mais on n'est pas forcément.
Non, mais c'est bien
courant,
parce que c'est vrai que on a tendance à dire. Et moi, le premier. Hein, moi, je vais toujours au parc. Je suis abonné. J'ai mes abonnements, pareil, depuis des générations aussi. Et en fait, t'as l'impression que c'est vrai que le public change. Il a changé le public, hein, surtout dans les tribunes latérales, où il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir, venir voir les stars, les Neymar, hein, comme Kevin M, et tout ça. Et donc, et en fait, l'histoire du Paris Saint-Germain, ils la connaissent pas, hein, pas plus que ça. Tu vois,
rappelle-toi Zlatan.
Par contre, il y en a d'autres, comme Fred et d'autres, qui sont là depuis des générations, et c'est bien que le club pense à eux. Et j'espère que ça va se renouveler et que enfin, tu vois, tu peux, c'est une façon de t'approprier encore plus ce club. Vrai. Quoi.
Et alors, pour couronner le tout, je voulais dire quand même quelque chose parce que l'histoire est incroyable. La famille du PSG, c'est vraiment incorporé avec notre famille parce que ma femme, Laura, est née le 12 août 70. Tu sais que le 12 août 70, c'est la date de création du club. Voilà.
Ah ouais, non, mais là, vous pouvez pas faire.
C'est pas fait exprès.
C'est quoi cette famille de fous, là?
C'est une famille de fous.
Et Fred me disait qu'il l'avait épousé quand il a su ça. Parce que
bien sûr, évidemment.
Alors, t'étais pas obligé,
les gars.
Elle le savait pas.
Elle le savait pas non plus.
Une dernière anecdote que tu nous as racontée également hors antenne, c'est l'histoire du siège de ton grand-père.
C'est très important pour nous. Ça fait partie de notre famille. En fait, je crois que notre vie, elle est rythmée en fonction du calendrier du Paris Saint-Germain. En fait, ma femme nous demande, c'est bon, je peux inviter ce soir? Non, pas ce soir. Parce que dans 15 jours, je sais pas, le calendrier n'est pas sorti encore. Je sais pas s'il joue le samedi, le dimanche, on fait en fonction. Et c'est vrai que quand mon grand-père Mandel est décédé, la première chose qu'on a fait, à l'époque, il n'y avait pas les enfants, il n'y avait que mon père et moi et mon grand-père, on a appelé le Paris Saint-Germain et on leur a dit, écoutez, pour l'année prochaine, on veut personne à la place de mon grand-père. Donc, on s'est décalé d'une place pour que personne prenne la place de mon grand-père.
Et ils ont accepté?
Ils ont accepté. C'était pas la même époque, c'était l'époque... c'est une autre époque, Aurélie.
Bon, voilà. Non, mais c'est une belle histoire quand même. Alors moi, ça doit exister dans plein de clubs, des histoires comme ça. Je ne sais pas si les clubs, d'autres clubs que le PSG, ont déjà pris ces initiatives de rendre des hommages comme ça à des familles entières picousées au club, quoi, et abonnées depuis là. Parce que là, il faudrait que tu me fasses le calcul d'accumuler les années d'abonnement de tout le monde pour voir à combien d'années on arrive.
De toute façon, tu calcules, mais... ça fait 50 ans, il doit être...
Bah, 10, 60, 90, 85
85 ans d'abonnement pour un club qui a 40 ans.
50 ans. Il va avoir 50 ans.
Il va avoir 50 ans pour le 12 août
2020.
Alors, moi, je lance un appel parce que ce soir, on a Fred avec nous. Bon, Fred, c'est facile, il bosse avec nous, donc il nous a raconté son histoire. Mais moi, s'il y a des Nantais, des Bordelais, des Lillois, des Strasbourgeois qui sont dans le même cas que Fred, avec des familles extraordinaires, là, comme ça, qui suivent leur club à la même place tous les matchs de génération en génération. Faites le 32-16 ou écrivez-nous sur Direct Studio.
C'est quand même plus facile.
Que j'aimerais qu'on accueille ces gens-là à l'antenne.
Ou les Lensois aussi, ça doit.
Bah oui, mais qui viennent à l'antenne. Moi, je veux qu'on vienne nous raconter ça dans l'after. 32-16, là, appelez-nous.
Bah, je pense qu'il y en a dans tous les clubs, et effectivement, dans tous les clubs historiques du foot français, évidemment, c'est le cas. C'est toujours quand même le foot
est une transmission. Est-ce que les clubs en prennent conscience, en fait?
Je sais pas, je voulais en venir là. De toute façon, c'est toujours de père en fils.
Général, ouais,
le foot sur le terrain, le foot dans les tribunes. C'est mon père qui m'a amené en tribune à Tours. Désolé, c'était à Tours.
D'ailleurs, t'as mis une belle chemise Tourangelle aujourd'hui.
Encore abonné à Tours.
Je suis pas abonné, mais je suis toujours supporter. D'ailleurs, on a mis 7-1 à jouer les Tours en Coupe de France samedi. Donc c'est important.
Et quand tu commences la Coupe de France,
à jouer les Tours. Non, c'est pas bon. À jouer les Tours. Là, ça sent pas bon.
À Tours. Non, le pire, tu sais quoi?
Ah, c'était à Tours.
À domicile.
Au pénalty,
c'était à Tours, il n'y avait plus la version.
La Coupe de France. Ah oui. En septembre,
il n'y a même plus la version.
Ah oui, c'est la version, donc elle n'est pas bien. Mais bon, j'ajoute juste que Tours est en tête de son groupe de National 3 et qu'il vient de passer Tours
à Bastia à une époque, comme Strasbourg.
Non, je voulais juste te dire que sur ça, puisqu'on parle de la culture foot, depuis 98, on avait découvert que, enfin, on s'était rendu compte que les Français connaissaient pas bien le foot, on le savait, mais ça s'était vu et qu'il y a eu une sorte d'appétence de nouvelles, comme disait Jérôme, d'un nouveau public, et pourquoi pas, très bien. Et je dirais que l'after, on a connu ça parce qu'on disait, tiens, on va faire des Legend Games, on va essayer de parler de l'histoire du foot et pas seulement du foot, là, de la semaine dernière, et que ça prenait parce qu'il y avait des tas de gens qui avaient envie de ça en France quand même, parce qu'il y a aussi des tas de gens qui ont cette culture foot, puis d'autres qui l'ont acquise. Et moi, je trouve très bien. Pour le coup, qu'un club, effectivement, comme disait Gilbert, qui est réputé pour son foot business et pour être un emblème de ce foot business, il n'oublie pas de faire ça. Alors oui, c'est de la com, oui, sans doute, c'est de la com, bien sûr.
C'est pas grave.
Parce qu'ils le font. Et que s'ils ne le faisaient pas, justement, le leur reprocherait.
C'est de la com, pardon, mais moi,
c'est de la com.
Si Fred vient pas nous raconter aujourd'hui.
Mais si, mais oui, mais ils étaient au centre du terrain.
Ils étaient au centre du terrain, ils
ont une idée qu'ils ont eue.
Moi, j'ai pas vu. Si t'es pas au stade.
Non, mais d'accord. Si t'es au stade, justement. Au stade, c'est intéressant de voir.
Ils ont montré aux gens
qu'il y avait une filiation, qu'il y avait, voilà, il y a eu des tweaks. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que, on dit souvent, les maillots, tu sais, réservés, on enlève le numéro d'un grand joueur qui est parti. Enfin, il y a des règles comme ça, effectivement.
Sauf à Marseille, on les remet.
Ouais. Mais il y a des règles qui montrent qu'il y a une culture foot qui grandit quand même, je pense, effectivement, en France.
Après, vous parlez du
Paris. Pour conclure, Kevin.
On dit souvent qu'au Paris Saint-Germain, en tout cas ces dernières saisons, j'entends très régulièrement dire « Ah oui, mais aujourd'hui, c'est plus le même public ». Mais moi, j'ai quand même l'impression que, alors certes, il y a peut-être quelques touristes, mais c'est pas encore la première ligue non plus. Moi, j'ai quand même l'impression que la grande majorité.
Écoute, c'est parfois un peu exagéré.
Kevin, tu vas y aller.
Je vais
peut-être moins d'ultra.
Je vais t'inviter avec tes enfants.
Attends, mais tu verras. Il y a peut-être moins d'ultra, mais pour moi, il y a au moins autant de supporters.
Sinon, derrière, on n'aura pas le temps de débattre.
Donc, stop.
Le volet, le score, Nicolas, entre la France et la Bulgarie.
Début de la troisième manche, parce que les Bleus mènent 2-7 à 0 de façon magistrale. 25-19, 25-21, avec toujours une exceptionnelle qualité de jeu. Ils mènent 4-1 dans le troisième set.
Le score entre Lens et Châteauroux, Jordan. En Ligue 2.
Toute petite minute 0-0 entre les deux équipes. Pas de changement. Les Lensois qui restent sur 4 matchs sans victoire en Ligue 2 vont devoir accélérer pour empocher les 3 points et remonter de quelques places au classement. 0-0 après 46 minutes de jeu.
Le débat sur l'identification au club continue. On parlera ensuite de Neymar, de Benedetto, avec les drôles de l'âme également qui suivront. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Ah oui, ça vient de tomber. Et oui, vous venez de l'entendre, à vous de jouer. Maintenant, vous avez 20 minutes pour participer, remporter vos places pour aller à PSG Real ce mercredi en Ligue des Champions. Vous envoyez donc foot tout de suite par SMS au 732-16 pour gagner ces places. Bonne chance à vous. Kevin Diaz est là, Jérôme Rantel, Florent Gautreau, plus Fred, donc notre supporter du PSG sur plusieurs générations. Et on reçoit pas mal de messages donc suite au témoignage de Fred. Tiens, j'ai par exemple Spouch qui m'envoie cette info. À Valence, un supporter aveugle qui pendant 40 ans à assister à tous les matchs à la même place. Quand cette personne-là, quand cet homme-là est mort, le club de Valence a carrément fait une statue sur la place du gars. Et là, j'ai la photo là. Donc à sa place, il y a sa statue.
Ça représente
en hommage à cet homme-là qui
est 40 ans. Le supporter de Lyon, pareil, qui est aveugle là.
Oui, qui était sur le banc de touche avec Bernard Lacombe.
Ouais. Il y a
quelques années,
ça genre au Parc Ouel.
Je sais pas.
Alors, le problème, c'est que si t'as beaucoup de supporters, si t'as beaucoup de supporters fidèles et que tu mets beaucoup de statues, à la fin, ça fait un stade silencieux.
Ouais, c'est
un peu compliqué, quand même.
Voilà. C'est ce qui se passe à Tournes.
Ouais. Dans quelques instants, on va parler de Neymar et Benedetto, mais juste avant, là. Profitons encore de la présence de Fred, parce que vous parliez du changement de, de population.
Ouais, Jérôme m'a pas laissé finir, d'ailleurs.
Vous n'étiez pas d'accord.
Moi, je disais que moi j'ai énormément d'amis qui sont supporters du PSG, mais vraiment, on dit des vrais, des anciens, et ils vont toujours au PSG. Donc, oui, je sais qu'il y a des gens qui disent que, ok, les tribunes ont peut-être changé.
Mais là, il n'y a pas que des footix, quoi.
Ouais, peut-être rajeuni, mais on peut pas dire qu'il y a que des footix au Parc des Princes non plus.
Moi, ce que je veux dire,
il y a quand même pas mal de gens qui aiment le PSG depuis longtemps.
Bien
peut-être
sûr.
Peut-être moins d'ultra. Puisqu'il y a eu quand même ce renouvellement, ce ménage.
Non,
mais bon, il y a quand même beaucoup
de gens.
Rassurez-moi.
Alors, je vais pas te rassurer parce que, en fait, moi, dans ma tribune, je suis en présidentielle. En fait, autour de moi, les gens changent chaque année. Voilà. Sauf nous.
Non, mais ils sont tous supporters du PSG quand même.
Oui, mais non. Enfin, si t'es supporter
du PSG. Et ça, il y a par exemple, il y a 10-15 ans, c'était pas pareil.
C'était pas. Il y a 10-15 ans, on était toujours les mêmes.
Peut-être le prix.
Il y a 10-15 ans, au mois de juin, on disait, de toute façon, c'est la dernière année qu'on sera bonne. Et au mois de août, on se retrouvait tous dans la tribune. Voilà.
Non, mais c'est ça.
Et là, donc, on peut plus partager, en fait, parce que autour de nous, tous les ans, ça change.
Mais est-ce que c'est pas le prix des places?
Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il y a ça aussi.
Peut-être.
Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, bon, je peux le faire pendant 2 ans.
Non, c'est pas que j'ai les moyens. D'abord, le Paris Saint-Germain, nous a fait beaucoup monter les abonnements quand les Qataris sont arrivés, mais ça fait 4 ans que je paye le même prix. Par contre, je sais que si quelqu'un d'extérieur veut prendre dans ma tribune, il paye 300 ou 400 euros de plus que moi à l'année.
Eh oui.
Et moi, j'ai pas bougé de prix.
Tiens, un petit témoignage bordelais. Matao, nous, on est 5 abonnés, 3 adultes, 2 enfants à Bordeaux, depuis maintenant 7 ans, et depuis 3 ans au Virage Nord, au Matmut. Impossible de garder nos places, parce que pour que le stade fasse illusion d'être plein, on nous déplace d'année en année. Voilà, dit-il.
Ah bah on l'a vu ce week-end hein, encore. Le stade, moi ça me fait de la peine de voir un stade à Bordeaux comme ça. C'est en plus une équipe qui remonte là en ce moment. Ils sont, on peut pas dire qu'ils sont, ils sont au fond du gouffre. Ils enchaînent les bonnes perfs. Le stade il est vide quoi. C'est catastrophique. À part les virages où il y a les supporters et heureusement qu'ils sont là. Mais elle est bien loin la période du parc Lescure là.
C'est sûr.
Ah bah ouais.
Messieurs, dans quelques instants, l'avis de Florent sur Neymar, l'avis de Jérôme sur Benedetto, mais d'abord les directs. La France fait un gros match à l'Euro de volley face à la Bulgarie, Nicolas Bayou.
Ah, énorme, énorme prestation des Bleus qui maîtrisent totalement ce premier choc du championnat d'Europe. Ils sont devant dans la troisième manche, ils se détachent encore une fois. 14 à 6, 15 à 6 maintenant pour l'équipe de France qui réussit parfaitement ce premier test et qui se dirige vers la première ou la deuxième place de sa poule avant d'affronter l'Italie mercredi.
On revient pour la balle de match dans quelques minutes. Et un but entre Lens et Châteauroux, Jordan.
Oui, Gilbert, à l'instant, un pénalty transformé par Tony Mauricio. Pénalty très bien tiré, plein centre, plein de sang-froid pour Tony Mauricio qui donc ouvre le score pour Lens sur une main un peu litigieuse. Il semblerait que ce soit la hanche, soit la main. En tout cas, les Castelroussins contestés. Vous le savez, en Ligue 2, pas de VAR. L'arbitre de la rencontre.
Ah ouais, mais c'est pour ça.
Eh ben, tant mieux.
L'arbitre, il a pris sa décision, il assume, 1-0 but de Tony Mauricio après 56 minutes de jeu.
Ouais, et il assume, ouais, demande au gars de Châteauroux s'il parle.
Mais quand
ouais,
t'aurais pas
cru avec le VAR, au moins il a pris une décision.
D'accord. Merci d'être venu. Okay. Une dernière question, tu réponds par oui ou par non, pour ou contre le VAR ? Oui ou non ?
Contre.
Très bien, bravo Fred. Tu reviens dans l'after quand tu veux.
Merci.
Salut Fred, dans quelques instants donc, Benedetto et Neymar en programme, plus les drôles de dames, c'est l'after qui revient dans quelques secondes.
RMC, 21h minuit. L'after foot. You're in charge of hiring and Indeed has solutions, like online skills tests, which let a candidate show that they are the right hire. And we give you this toy monkey who will bang its cymbals when the right CV appears on your desktop. Okay, there is no monkey. There is no monkey. But there are online skills tests.
See why more than 250,000 companies in the UK use Indeed for hiring. Visit indeed.com/try today to try skills tests for free today. Terms and conditions apply.